Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion publique de lutte ouvrière qui se tient dans le cadre de la campagne électorale pour les présidentielles pour faire connaître et soutenir la candidature de Nathalie Arthaud. Alors c'est Claudette Balédier, factrice, et Éric Marre, infirmier hospitalier, qui seront les candidats dans la circonscription de Bernay pour les législatives donc, du mois de juin. C'est ma camarade, Colette Balédier, qui va introduire la réunion. Mais avant de lui passer la parole, on souhaitait vous lire le communiqué de presse écrit par Nathalie Arthaud il y a 2 jours pour dénoncer les violences policières sur Théo à Aulnay-sous-Bois. Car en ce moment même, là, cet après-midi, elle et nos camarades parisiens sont en rassemblement pour dénoncer les fameuses violences. Donc je vais vous lire le communiqué écrit le 16 février. Je serai présente, c'est donc Nathalie qui parle, hein, au rassemblement organisé samedi 18 février à Paris, notamment par la CGT, la FSU et la Ligue des droits de l'homme, à 15h place de la République. Je partage l'indignation de tous ceux qui continuent à protester contre l'agression dont a été victime le jeune Théo à Aulnay-sous-Bois et contre les suites qui ont été données. Le viol dont a été victime Théo a été jugé non intentionnel et les policiers responsables laissés en liberté, alors que chaque jour, des jeunes lui ayant manifesté leur solidarité passent en comparution immédiate, voire sont condamnés à de la prison ferme. Ce n'est pas le fait du hasard. Dans les banlieues, on voit patrouiller des brigades spéciales, équipées d'une véritable panoplie de guerre, comme celle à laquelle appartenaient les policiers qui ont agressé Théo. La police est ainsi maintenue vis-à-vis de la population dans un climat d'hostilité auquel s'ajoute souvent le racisme. Voilà la façon dont on voudrait faire accepter à la jeunesse des quartiers pauvres une société qui ne leur laisse aucun espoir d'avenir pendant que les riches sont de plus en plus riches et arrogants. Marine Le Pen, qui a dit sa solidarité avec les policiers auteurs d'exactions contre les jeunes, a montré qu'elle est bien candidate à aggraver encore la barbarie de cette société. François Fillon, devenu un symbole de l'injustice après avoir sans vergogne enrichi sa famille avec l'argent public, vient de surenchérir en proposant d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. C'est ce même candidat de la droite qui se considère au-dessus des lois et qui voudrait que l'on envoie encore plus facilement les jeunes en prison. Il faut que nous soyons de plus en plus nombreux à lutter contre la domination des plus riches sur cette société et toutes les violences qui en découlent. C'est le sens de mon combat. Donc on pourra discuter de ce sujet et de bien d'autres après l'introduction de ma camarade Colette.
Alors, je voudrais commencer cette réunion par travailleuse-travailleur, comme le fait Nathalie Arthaud et comme le faisait Arlette Laguiller. Parce que justement, Nathalie Arthaud se présente à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs. Les intérêts des ouvriers, des employés, de ceux qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts de ceux en invalidité ou à la retraite. Elle est candidate pour que les millions de femmes et d'hommes qui font tourner l'économie dans des conditions de plus en plus dures, tout en étant payés une misère, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays et qu'ils ont des droits pour lesquels ils veulent se battre. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner. Nous produisons toutes les richesses, y compris les superprofits. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Oui, nous pouvons être fiers d'appartenir à la classe des travailleurs. Nous sommes indispensables. Quand on appartient au monde du travail, voter pour les Le Pen, Fillon, Hamon, Macron, c'est voter contre son camp, contre ses intérêts. C'est tendre le bâton pour se faire battre. Parce qu'ils aspirent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie, ils sont socialement hostiles à la classe ouvrière. On le mesure avec le feuilleton Fillon. Il répète en boucle qu'il n'a rien fait d'illégal, comme si c'était le problème. Fillon ne se rend pas compte du décalage qu'il y a entre ses leçons de morale et ses actes. 900 000 euros pour sa femme, 80 000 euros pour ses enfants, 45 000 euros d'indemnité de licenciement. Cela sonne comme une insulte pour les ouvriers et les jeunes qui sont condamnés au petit boulot. Et pour essayer de s'en sortir, il en rajoute dans le sécuritaire en mettant la majorité pénale à 16 ans. Mais ce sont les mêmes comportements, la même arrogance que l'on retrouve dans le monde bourgeois, avec ses PDG et ses grands actionnaires, qui n'ont de cesse de dire aux travailleurs qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils sont trop payés, alors qu'eux empochent des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois, sans rien faire de leurs 10 doigts. Mais regardez comment, en face, les Hamon, les Macron, cherchent encore à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont participé au quinquennat Hollande, qui a entériné les reculs sur les retraites, qui a augmenté la TVA et aidé le grand patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail, à licencier. Et les voilà aujourd'hui qui nous promettent de tout changer. Macron ou Hamon s'érigent en petits nouveaux de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche, la remise des bus sur la route, le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Quant à Hamon, il se singularise avec sa proposition d'un revenu de base universel. Il parle de 750 euros d'ici à 2022 parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et, sous-entendu, de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, c'est non seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Il n'y a que chez les bourgeois qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Alors il faut rejeter ce type de charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2016. La fortune d'un Bernard Arnault, le patron de LVMH, a augmenté de 7 milliards d'euros en une seule année. Ce n'est pas l'aumône que nous voulons. C'est une politique qui réponde à nos intérêts, avoir un travail et un salaire, le droit d'être soigné, d'être logé dignement, le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation, le droit d'avoir une retraite décente. Et ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ses politiciens, eh bien, ils se trompent. Le Pen est une candidate bourgeoise attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant qu'il faut baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, sous prétexte de rendre compétitives les entreprises françaises, elle justifiera, comme tous les autres, l'allongement du temps de travail, le blocage, voire la baisse des salaires, la réduction des cotisations patronales et de leurs impôts. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidat anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et les plus pauvres, à condition, bien sûr, qu'ils soient français. C'est une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie, les alimente pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Elle s'indigne que l'on donne 11 euros par jour à un demandeur d'asile, mais pas qu'un PDG comme Carlos Ghosn de Renault gagne 45 000 euros par jour, ou qu'une bourgeoise comme Bettencourt, l'actionnaire principal de L'Oréal, empoche 1 million par jour sans rien faire. Le Pen est la digne représentante de la bourgeoisie. Alors, à l'opposé des Le Pen, Hamon, Macron ou Fillon, qui se préparent à servir la bourgeoisie, Nathalie Arthaud est candidate pour la dénoncer. Elle est candidate pour combattre les Bettencourt, les Dassault, les Peugeot, les Michelin, parce que leur prospérité s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail, parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse de nos salaires ou de nos retraites. C'est le pouvoir du grand capital ou le pouvoir des travailleurs. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut choisir son camp, et le nôtre, c'est celui des travailleurs. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs. Il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs, qui doivent travailler pour gagner leur vie et qui ont à se battre en permanence contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas des chauffeurs VTC contre la plateforme Uber, et c'est le cas des agriculteurs contre la grande distribution. Et parce que dans cette élection, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats, nous ne parlons évidemment pas seulement des travailleurs français. C'est une spécialité de Le Pen d'opposer les travailleurs les uns aux autres en fonction de leur nationalité ou de leur confession. Elle sème ainsi la haine et le rejet de l'autre et favorise en retour le repli communautaire. au-delà de nos origines, de nos croyances, de notre couleur de peau, un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs. Alors, il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Tous ceux qui sont... Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en mai sera un ennemi des travailleurs. Pour les travailleurs, le match, il est truqué. Il ne faut pas marcher dans leur jeu. Mais on nous donne la parole au premier tour. Eh bien, ne laissons pas le monopole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous. Disons tout le mal que l'on pense de cette société capitaliste et parallèlement à leur comédie électorale, mettons en avant nos idées, notre propre politique, une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Alors, le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien, nous, les travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille, les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Et il faut remplir l'estomac des enfants. Il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure de bon sens et d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez PSA. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015. Et il en supprime encore 650. Et c'est la même chose pour SFR, pour EDF et bien d'autres. Ils se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciement, mais c'est autant d'emplois qui disparaissent et au final, cela fait des dizaines de milliers de chômeurs en plus. Alors, il faut commencer par stopper tous ces grands fabricants de chômeurs. Il faut imposer que tous ces grands groupes et les banques soient mis à contribution et payent pour préserver les emplois, et y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Et parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit, depuis des années, qu'à quelques heures de boulot, ici et là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement, en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Dans presque toutes les entreprises, dans le privé, mais aussi dans le public, la charge de travail a été accrue. Les horaires de travail sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois, avec un salaire complet. Et regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignants dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a trop d'enseignants? Et pour ce qui concerne les logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, d'ingénieurs, de peintres en bâtiment? Alors il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société et donc autant d'employés, d'emplois à créer pour les satisfaire. Et si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera, mais 7 ou 8 millions. Alors, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Parce que le chômage est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre, la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. Et à côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée, nous explique qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises parce qu'elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir. Les privatisations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent. Eh bien, pas nous. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Eh bien, il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, et parfois bien davantage. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité ou l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. Et c'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Il faut encore payer les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, il reste moins d'une vingtaine d'euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec les enfants, c'est bien, encore bien plus serré. Alors, 1 800 euros net, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et les pensions. Et quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, ils doivent être transformés en salaire, car tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile. Ces 1 800 euros ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 150 euros net, était de 1 000 euros. En 10 ans, le SMIC a augmenté de 15% et le salaire des grands PDG de 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité ou d'assurance pour voir que les prix augmentent. Et puis la société est riche, est très riche. Alors il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et au besoin sur leur fortune accumulée au détriment des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle les travailleurs doivent imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner, et avec le secret des affaires, la loi est faite pour les couvrir. Il est de bon ton pour les politiciens de parler de transparence, mais ils empêchent les travailleurs de l'imposer. Y compris quand les journalistes lèvent des lièvres, vous les entendez tous s'indigner. C'est ce qui se passe avec Fillon. Il est offensé qu'on lui demande des comptes aujourd'hui. Mais des comptes, les travailleurs sont sommés d'en rendre en permanence. Au moindre entretien d'embauche, à la moindre lettre de motivation, on est inspecté sous toutes les coutures. Et pour certains emplois, il faut même un casier judiciaire vierge. Idem pour les chômeurs, qui doivent s'expliquer sur toute leur recherche d'emploi, fournir des preuves, justifier de leur demande s'ils repoussent un rendez-vous. Alors oui, il faut demander des comptes à tous ces politiciens, et plus décisif encore, les travailleurs doivent pouvoir contrôler collectivement les comptes des entreprises et de la bourgeoisie. De fait, les travailleurs savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG parce qu'elle le prépare, le tape et l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent et le craignent. Et c'est pour cela qu'ils imposent le secret professionnel aux salariés. Il faut revendiquer de supprimer ce secret des affaires. Cette mesure est un objectif essentiel, car elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir, ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts. Et alors, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte et on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes. Alors, le programme défendu par Nathalie Arthaud, ce n'est pas comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui doit nous orienter pour nos combats quotidiens. Et c'est un programme de survie pour les couches populaires, qui découle de nos besoins. Et oui, c'est le plus radical, car contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Et nous sommes prêts à la combattre jusqu'au bout. Contrairement aux autres candidats, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte, nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat et nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation. Les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme doivent voter pour Nathalie Arthaud. Ils doivent faire un vote de classe et de combativité. Revoter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat, il commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis et nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées, le combat politique. Le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis bien longtemps. Le vote pour Nathalie Arthaud permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent après les élections. Car les travailleurs n'ont pas seulement besoin d'exprimer leurs intérêts au moment des élections. Ils ont besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien dans les entreprises, en permanence contre la politique anti-ouvrière relayée par les gouvernements. Cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts inconciliables et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Voter, ce n'est pas encore construire le parti, mais c'est déjà se rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire un parti pour les travailleurs. Alors, à gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas la même signification que le vote pour Nathalie Arthaud. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. T'avais pas dit qu'il fallait éteindre
j'avais
le portable.
J'avais pas dit, j'avais pas rappelé.
Alors, dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles. Mais elle ne débouche que sur peu d'engagements concrets. Mélenchon promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC porté à 1326 euros net, les vraies 35 heures. Mais même ces quelques promesses à destination des travailleurs sont des promesses en l'air, tant qu'on ne dit pas comment on l'imposera au grand capital qui décide de tout aujourd'hui, tant qu'on ne se dit pas prêt à arracher ce pouvoir à la minorité capitaliste, on parle pour ne rien dire. Car c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, en son temps, l'avait fait superbement. Mais il faut dire si on en est prêt ou pas à la renverser. Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses, la Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie, pas la propriété privée des moyens de production. Avec d'autres, y compris Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant les traités ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains. Le pouvoir reviendrait au peuple, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, Sanofi, le grand maître des médicaments. Quand on est exploité, on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république, ou à l'échelle de l'Europe, on est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, de fixer les horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs, et de les détourner de leur combat de classe, et de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs et la bourgeoisie. Alors, laissons les mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier. L'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Et l'émancipation sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Avec Mélenchon, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, sont bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur Nathalie Arthaud auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. Alors, je voudrais aussi vous dire que nous exprimons aussi notre entière solidarité aux femmes et aux hommes qui offrent un toit, un repas et de l'aide aux migrants, comme une partie de la population de Sérigny l'a fait hier soir avec les réfugiés afghans. Aujourd'hui, ils sont arrêtés, gardés à vue, poursuivis en justice, simplement parce qu'ils se comportent humainement. Eh bien, si se conduire humainement est un délit, vive le délit d'humanité. Et sur le fond, sur la question des frontières, les principaux candidats sont d'accord. Il faut des frontières de plus en plus étanches, nous disent-ils, et de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot, les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions, l'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines de milliards, et l'on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et leurs bombes, ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. Et depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers, nos villages sont composés de rentiers ? Non, de femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien, elle produit elle aussi des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient fiers d'être indépendants il y a un ou deux ans, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Oui, la classe ouvrière existe, et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière. Il y avait encore beaucoup de réserves dans toutes les entreprises. Eh bien, il faut aussi qu'elle s'exprime sur la scène politique. On nous met dans la tête que les élections servent à élire quelqu'un. Mais encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera des coups n'a aucun sens. Dans cette élection, on nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui les aidera à baisser nos conditions de vie et de travail. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. Tous ceux qui partagent ces idées peuvent voter pour Nathalie Arthaud sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté Hollande en 2012 ? Et il faudrait recommencer avec un autre. Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire, pour essayer de se protéger, est un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. C'est se soumettre ou c'est déserter. Car si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester, parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne, est un geste à la portée de tous. Il n'y a pas de petits combats, pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Alors, il faut entraîner le maximum de ceux qui vous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Alors, la campagne pour Nathalie Arthaud, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi ces millions, il y en aura plusieurs centaines qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Cette candidature leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. C'est déjà quelque chose d'important. Mais bien plus largement, il y a tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus, qui s'interrogent. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes, tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent même plus entendre parler de politique et de vote. Ils sont dans votre famille, ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Vous pouvez les toucher en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre et de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, de salariés, de chômeurs. Et au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent, car elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés. Et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, au lendemain de l'élection, en mai prochain, qu'est-ce qui changera pour nous ? Nous irons au travail. Beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. On se retrouvera confrontés au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout-puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, quand bien même on a perdu son travail. On se retrouvera confrontés au pouvoir de l'État, qui s'est déroulé le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui nous préparera aux luttes que forcément nous aurons à mener demain.